Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
Bonjour Caroline.
Bonjour Fabrice.
Caroline Derumini, chaque semaine sur Nutri Radio. Quelle chance on a de vous avoir. Et puis, vous êtes toujours bien accompagnée en général. Cette semaine, votre invitée, c'est Khadija El-Gharouani, qui est psychologue clinicienne. Vous allez nous parler d'un sujet que je découvre. Vous savez, je n'ai pas fait mes devoirs, donc je le dis, autant être transparent avec les auditeurs. D'habitude, Caroline m'envoie un mail que je lis pour savoir le sujet que nous allons traiter dans l'émission. Là, j'ai choisi volontairement de ne pas le faire pour être surpris, pour savoir si vous allez me captiver et captiver les auditeurs pour parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes. Et pour deux d'entre eux, je ne sais absolument pas ce que c'est. On va parler du bore, du burn et du burn out. Caroline, c'est
exactement, Fabrice. Expliquez-nous. Et je pense que ça va vous intéresser.
Ça, j'en doute pas. Évidemment, Caroline, voyons.
Et ça pourra peut-être permettre de lire les mails la prochaine fois plutôt que de détourner en disant j'ai choisi de ne pas lire le mail.
Oui, bon, écoutez, ne soulignez pas comme ça au stabilo les choses qui sont évidentes. Bonjour Khadija.
Bonjour Fabrice.
Bienvenue sur l'antenne de Nutri Radio et dans l'émission donc Caroline Derumini, Thérapsy. Je vous laisse entre vous. C'est ça que j'adore aussi, c'est que je peux maintenant bien écouter.
Impeccable. Alors bonjour Khadija.
Bonjour merci Caroline. Avec, nous. Mais merci alors, beaucoup pour l'invitation.
Eh ben avec grand plaisir parce que, alors déjà, oui, tu es psychologue clinicienne, comme l'a dit Fabrice, mais tu es aussi docteur en psychopathologie. Et justement, ben, ce qui est art-thérapeute, moi je le sais aussi.
Oui, exactement.
Donc, je te laisse te présenter un petit peu, dire ton parcours et la manière dont tu travailles, les outils que tu utilises et le sujet que l'on va aborder ce matin.
Ok. Mais bonjour Caroline, bonjour à tous. Alors moi je suis Khadija, je suis psychologue et comme tu l'as bien dit, docteur en psychopathologie. Effectivement je suis art thérapeute, je suis diplômée on va dire depuis à peu près 12 ans. Depuis 12 ans environ. J'ai travaillé une grande bonne partie en institution et depuis à peu près 3 ans, je suis en libéral. Et je m'éclate du coup parce que je peux justement bien utiliser l'art-thérapie avec notamment les ados, les enfants, avec des outils à médiation comme l'art plastique, l'écriture, l'argile. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que ça a été un de mes sujets de mémoire il y a très très longtemps. Et donc, c'est effectivement tout ce qui va être en lien avec le burn-out, avec tout ce qui est maladie professionnelle. J'ai beaucoup accompagné aussi des personnes et j'accompagne toujours au cabinet des personnes qui souffrent de ces pathologies-là, aussi bien du burn-out que du bore-out ou du burn-out. Et on va le voir ensemble.
Alors justement, quels sont les liens, les différences, enfin comment tu peux définir, parce qu'il y a vraiment trois types et on entend souvent parler que du burn-out, mais ouais. il y a d'autres types de difficultés liées à un surmenage. Est-ce que tu peux du coup définir déjà chaque
ouais, bien sûr.
Burn, le burn et le brown en fait. Voilà, ouais. Merci.
Je t'en prie. Effectivement, le terme burn-out, c'est quelque chose qui a été maintenant d'ailleurs qui est complètement, l'OMS, j'expliquerai, hein, mais elle l'a reconnu comme maladie, c'est comme maladie professionnelle. Faut savoir aussi que le burn-out, c'est ce qui nous a permis aussi de développer le bore et le burn-out parce que finalement, on s'est rendu compte que il n'y avait pas que la charge de travail, je vais y revenir, qu'il y avait autre chose qui pouvait créer aussi du mal-être au travail. Donc en fait, vraiment, si on doit tout simplifier, c'est simplement que le terme burn-out, bore-out et burn-out sont liés à des phénomènes de stress et d'épuisement au travail, mais en fait chacun va décrire une expérience spécifique si tu veux. Donc si je dois juste me centrer pour le burn-out, c'est un état d'épuisement qui va être vraiment émotionnel pour le coup, qui va se ressentir au niveau physique, au niveau mental et qui est causé principalement en tout cas par un stress qui est prolongé dans le travail. Donc, les personnes qui vont être atteintes de burn-out vont se sentir très épuisées, elles vont se sentir inefficaces, elles vont perdre aussi tout intérêt pour leur travail, au final. Et il y a beaucoup de symptômes comme de la fatigue, une forme aussi peut-être de dépersonnalisation, Avec parfois, dans certains cas, notamment, ça a beaucoup été étudié, ça. Il y a beaucoup d'études scientifiques sur le burn-out des soignants, parce que c'est là où on l'a vraiment découvert, ce terme de burn-out. C'est grâce à l'analyse de ça au milieu de la sphère médicale.
Médicale et, en fait, et paramédicale, tout à fait.
Tout à fait, ouais. Et il y avait ce sentiment de cynisme, en fait, et de détachement par rapport au travail. C'est pour ça que très, très souvent, quand on est dans le social, dans le médical, quand on voit des professionnels qui sont un peu cyniques, qui sont vachement détachés, alors qu'on travaille avec de l'humain, là, ça fait tilt. Là, c'est important peut-être de se dire, OK, il y a un truc qui ne va vraiment pas. Donc ça, c'est vrai que le burn-out, il résulte vraiment de cette surcharge de travail. Et donc, ça crée aussi des conflits interpersonnels, si tu veux. On va manquer de contrôle dans nos tâches. Enfin, bon, il y a du stress chronique, voilà, qui est lié au travail.
Oui, ça va vraiment, on va dire, venir éclabousser d'autres domaines, d'autres sphères, même au niveau personnel après.
Complètement. Complètement, on se retrouve épuisé aussi chez soi. Il y a un surinvestissement de la sphère de travail. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est justement comme tu le dis, hein, on ne se retrouve pas chez soi et tout va bien. C'est après un état qui persiste dans toutes les autres sphères. Ouais.
Tout à fait, parce qu'on va l'assimiler, c'est vraiment proche de la dépression. On est dans, bah, comme tu dis, une dépersonnalisation, un désinvestissement. On est. On est dans une réduction du sentiment d'accomplissement personnel. Ça vient toucher en fait la pyramide de Maslow et tout ce qui va être de l'ordre des besoins fondamentaux en fait.
Maslow, Caroline, vous allez revenir sur ces termes un peu techniques quand même pour nos auditeurs. Dans un instant, on marque une toute petite pause si vous permettez, mesdames, et on se retrouve pour cette conversation juste après ceci.
Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
Et on parle du burn-out sur Nutri Radio ce matin avec Khadija El Guarani et Caroline Derumini. Donc, Caroline Derumini, je vous invite, quand vous utilisez des expressions comme ça professionnelles, de les clarifier immédiatement après, pour pas que nos auditeurs se disent oh, « je comprends rien, qu'est-ce que c'est la pyramide de Maslow ?» C'est ce que vous nous disiez juste avant la pause, Caroline.
Tout à fait. Alors, j'allais le faire, mais j'ai été coupée. Pyramide de Maslow, c'est la base. Alors ça, c'est très intéressant de venir le relever et de savoir ce qu'elle est, parce que c'est la base d'un bien-être que l'on va assimiler, comprendre de soi-même. La première, en fait, tu vois ça comme une pyramide et il y a 5 étapes. La première base, c'est les besoins physiologiques. Manger, se nourrir, se dormir et éliminer. Donc, si l'un des trois, donc aussi bien quand on a envie d'aller aux toilettes,
Caroline, pardon, je vous interromps, mais il se trouve que votre magnifique connexion Internet a défailli et donc on n'a pas tout entendu. Ça a été un peu coupé. Est-ce que vous pourriez reprendre?
Mince.
Eh oui, c'est comme ça. Que voulez-vous? C'est
bien sûr.
Charme du distanciel.
Donc, la pyramide de Maslow. À 5, faudrait que je vienne, comme ça serait moins coupé.
C'est ça.
Donc, on a 5 steps, d'accord ? Le premier étant les besoins physiologiques. Donc, on sait se nourrir, dormir et éliminer. Quand on a envie d'aller aux toilettes, quand on a sommeil ou quand on a faim, on n'est pas capable, le cerveau n'est pas capable de penser à autre chose que ces trois besoins physiologiques. À chaque step, il y a un besoin fondamental. Donc, le deuxième, c'est besoin de sécurité. Quand la personne n'est pas en sécurité, eh bien, le cerveau va demander une recherche en sécurité. Après, on a le besoin d'appartenance. Donc là, on est dans ce besoin d'être en groupe avec des pairs, PIRS, ou de venir intégrer un milieu affectif sécuritaire tel la famille. Ensuite, on a le besoin d'estime. L'estime de soi, la confiance en soi, et ensuite le besoin d'accomplissement. Si bien que quand on voit cette pyramide avec les 5 étapes, on sait que quand il y en a un qui est un petit peu plus délicat que l'autre, eh bien, il est difficile d'aller au step plus haut, au step d'après, Merci, je cherchais mes mots. Donc, on est dans, par exemple, si on a un besoin physiologique qui est OK, besoin de sécurité, on est OK, besoin d'appartenance, on est OK, besoin d'estime, si là, ça commence à pêcher, et là, je fais le lien et le pont avec le sujet d'aujourd'hui de Khadija, c'est que si là, ça vient, on va dire, s'étioler, il y a une difficulté d'atteindre le cinquième stade du besoin d'accomplissement. Et c'est pour ça qu'on est dans un burn, un bore ou un brown, dans le sens où on ne sait plus pourquoi on est là.
Exactement. La question de la perte de sens, on va aussi l'expliquer avec les autres termes, mais de toute façon, elle fait écho à ces trois thèmes. Hein. À ces trois pathologies, hein, enfin ces trois problématiques, hein, parce que tu le dis, mais à partir du moment où il y a nos valeurs qui sont complètement aussi, j'allais dire effritées, parce que on sent qu'il y a un écart entre ce que je suis en train de faire et ce qu'on me demande de faire. Là, si je reprends toujours la thématique des soignants, mais on peut le voir dans n'importe quel domaine de toute façon, un soignant qui va devoir montre en main travaillant dans le, je sais pas, par exemple en EHPAD, et qui va devoir montre en main faire une toilette à un résident en 30 minutes, c'est quasiment impossible. On est dans le rush constant et en fait, elles sont complètement écartelées entre le fait de devoir faire le travail bien, de manière bienveillante, de manière et au final avec ce qu'on leur demande de faire, qui n'est pas possible finalement dans le réel. Si tu veux.
Donc, en 30 minutes, t'es gentille, parce que moi qui ai travaillé en maison de retraite et qui ai pu faire des toilettes tous les matins avec mes collègues pour les aider, on en était plus à 20 minutes montre en main. C'est terrible, ouais.
C'est terrible. Très souvent, ils sont là parce qu'on a envie de travailler avec l'humain, mais on devient vraiment des exécutants au final. Donc, c'est hyper compliqué. Il y a aussi le fait de manquer de contrôle aussi dans notre stage, si tu veux, le fait qu'on ait peu de contrôle, peu de maîtrise sur ce qui se passe, parce que il y a vraiment une forme de verticalité du « c'est comme ça et c'est pas autrement », ben, ça crée aussi une surchauffe, une surcharge, si tu veux. Et donc, entre les valeurs, la perte de contrôle, le fait que il y a des fois dans certains domaines, pour certaines personnes, un manque de, je parle de communauté, quand on parle de communauté, de communautarisme dans le monde du travail, c'est le fait d'être hyper lié par rapport à la dynamique groupale, de sentir qu'on a appui de ses collègues, de sentir, ça c'est hyper important, et souvent aussi… Ce besoin d'appartenance, voilà, j'y viens, c'est exactement ça. Et finalement, ben voilà, ça, tu vois, c'est pas finalement qu'une question de surcharge de travail, il y a aussi toutes ces petites choses autour qui gravitent, qui font qu'à un moment donné, la personne, elle se sent complètement, écartelée, avec soit une latitude moindre dans son boulot, avec des demandes constantes, soit il y a aussi la possibilité d'avoir une latitude, mais quand même d'être très réduite au niveau, soit au niveau des valeurs ou au niveau du communautarisme, entre guillemets, de la fonction groupale dans son travail. Et forcément, voilà, tout ça mène à un cocktail un peu compliqué.
Complètement. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, moi, par rapport à ce milieu institutionnel que tu as côtoyé également et que j'ai pu côtoyer pendant plusieurs années également, on repère certains professionnels qui vont être dans des stratégies d'évitement aussi.
Ouais.
Ils vont trouver en fait des mécanismes de défense, de protection pour venir pallier un certain temps, mais ça dure qu'un temps en fait. Est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce que tu viens repérer une personne qui va être qui va être sensible à un début d'épuisement professionnel justement?
Alors, c'est vrai que par rapport à ça, il y a quelque chose d'hyper, je crois, il y a un déclic. Ça va être quand la personne, elle va exprimer cette fatigue-là, mais pas directement, pas en disant « je suis vraiment fatiguée ». C'est pas, il y a une conscience, effectivement, de cette fatigue, mais ça va être vraiment… tout va être négatif, dans le sens où la moindre chose va être relevée de manière négative. Il y aura aussi, si je suis dans l'institution, pour l'avoir vu aussi, des formes un petit peu de maltraitance, où on va pouvoir avoir des personnes très agressives aussi, très dans la critique, ce que je disais tout à l'heure, un peu cynique.
Irritable et intolérant, tout à fait.
Intolérant, ouais. Ouais,
Et puis,
complètement.
ils sont dans quelqu'un qu'on ne reconnaît plus, dans le sens où on les avait jamais vus comme ça, et
C'est ça.
un changement de comportement, voilà, ça serait plus ça aussi.
Le changement de comportement dans leur façon d'être, mais aussi limite aussi au niveau physique. Je me rappelle, je revois une jeune qui travaillait et qui en fait était tout le temps apprêtée. Ça ne lui ressemblait pas de venir en jogging, quoi. Enfin voilà, elle était même si elle était dans le soin et qu'elle devait ensuite, tu sais, mettre
Oui.
sa tenue de soin, elle était toujours vraiment. C'était sa façon d'être, de venir toujours bien maquillée, bien coiffée. Voilà, c'était ça. Et puis petit à petit, ça s'est dégradé. Elle était vraiment physiquement comme si elle portait, enfin elle avait les épaules
Oui, plus
courbées, elle
envie,
était
quoi, plus envie.
ouais, plus envie. Et là aussi, c'est là où il y avait des prémices où je l'ai un peu alertée, effectivement. Et elle m'a dit, ouais, en fait, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis à bout. Donc c'est vrai que ce burn-out, il se détecte quand même pas mal comme ça aussi.
Et
Après,
alors les deux autres, quand tu parles
ouais.
de burn-out et burn-out, alors moi pour l'avoir travaillé avec toi, je vois, mais est-ce que tu peux expliquer justement aux auditeurs, eh bien justement cette différence, cette
Ouais.
distinction entre les trois?
Alors, le burn-out, c'est vraiment, si on doit juste le simplifier, hein, c'est un ennui chronique. Un ennui chronique qui va développer vraiment ce syndrome de burn-out. C'est en fait le fait, c'est vraiment contraire par contre au burn-out, hein, parce qu'il va se produire vraiment lorsque les personnes se sentent sous-stimulées, si tu veux, ou ennuyées
OK.
dans leur travail. C'est-à-dire que, en fait, contrairement au burn-out, où il y a vraiment la surcharge de travail, là, le burn-out, ça vient vraiment quand les tâches sont monotones, répétitives, ou alors, mais pas du tout stimulantes. Et en fait, les personnes qui vont souffrir de ça, elles vont se sentir vraiment démotivées, désengagées, elles vont même déprimer, hein, à cause de leur ennui au travail. C'est pour ça que des fois, moi, je revois des patientes qui me disaient, mais en fait, je m'ennuie, mais tout le monde me dit, mais t'as de la chance, t'es payée à rien faire. Mais en fait, ça, c'est un fantasme total parce que personne, je crois qu'aucun être humain ne sait vivre sans être reconnu dans ce qu'il fait. Voilà.
Tout à fait, on a besoin de stimulation, on a besoin d'activation, on a besoin de d'épanouissement. Moi, tu vois, ça me fait
Complètement.
penser en dehors de, parce que là, on parle beaucoup du milieu médical,
Ouais.
mais tous ces boulots de travail à la chaîne, tous ces boulots de
Complètement.
même de caissière, enfin ou de caissier d'ailleurs,
Bien sûr.
mais on est vraiment dans quelque chose où c'est peu gratifiant
C'est ça.
et on est dans des tra des du travail alimentaire qui du coup eh bien vient nous chercher dans cet épuisement professionnel par l'ennui et puis si on n'a pas une vie trépidante à côté, on
C'est
a vite
ça.
fait tomber dans quelque chose de dépressif.
Ben clairement, parce que ça, là, tu parles un peu de ce que je vois beaucoup au cabinet chez certaines personnes qui vont avoir un burn-out, c'est qu'en fait, il y a aussi une stagnation au niveau professionnel. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a une absence de perspective d'évolution, mais presque quand même. C'est-à-dire que finalement, à part de caissière, elles vont changer certainement elles vont être dans les rayons ou autres, mais finalement, à part ça, il n'y a pas de réelle perspective. Les tâches se ressemblent, c'est pas gratifiant parce que forcément, quand en plus on est caissier, etc., les gens ils sont pas forcément gentils non plus. Donc c'est tout ce qui va être de l'ordre de la répétition, qui va être de l'ordre de la stagnation, moi que j'appelle vraiment ce terme de stagnation professionnelle, avec vraiment, je répète, mais ce peu de perspective d'évolution, ça flingue totalement les personnes, quoi, à terme, hein. Ouais,
Si
à mon
ça
sens.
correspond pas à la personnalité de la personne. Encore une fois, c'est on peut s'éclater en étant caissier, rayonnage ou faire du
Complètement.
travail à la chaîne. On peut s'éclater dans le sens où on a autre chose dans sa vie comme utilité, comme envie. Si ça convient à la personne d'être dans ce travail-là parce que du 9h à 16h, c'est OK pour eux.
Ouais.
Là, on n'est pas dans le burn-out, dans le
Non.
bore-out.
Ah non, parce qu'en fait, le burn-out, ça vient vraiment quand, par exemple, quand on va venir s'ennuyer au travail, parce que de toute façon, c'est mal perçu, mais c'est parce que du coup, ça ne vient pas être quelque chose. Alors moi, je vais le dire aussi, hein, parce qu'il y a des entreprises qui mettent au placard certaines personnes.
OK.
Ça aussi, hein, c'est complètement symptomatique du burn-out. Mais en fait, le fait de s'ennuyer au travail, c'est parce que du coup, on n'est plus du tout aligné. Et là, on va faire presque une introduction au burn-out, mais on n'est plus du tout aligné avec ce qui faisait sens pour moi aussi, parce que tout est plus ou moins imbriqué, hein, dans ces termes, hein, mais on n'est plus aligné réellement avec notre travail. C'est-à-dire qu'en fait, je m'ennuie, mais parce que finalement, peut-être que ce que je suis en train de faire ne correspond pas du tout à ce qu'on m'avait plus ou moins aussi vendu, parce que ça aussi, ça arrive. Des personnes dans un domaine particulier qui pensent, notamment, là, j'avais une personne qui travaillait dans un marketing de luxe, et en fait, qui me disait, ben, on m'a vendu du rêve, et moi, je suis arrivée, et en fait, on l'a mis complètement en veille, intellectuellement parlant, si tu veux. Donc, ça aussi, c'est... ouais, ok, je suis dans un truc qui paraît prestigieux, mais ben en fait, il n'y a plus rien là. Là, je m'ennuie totalement dans ce que je suis en train de faire. C'est répétitif, c'est vide, je stagne, c'est vide de sens, mais on le retrouve beaucoup, beaucoup dans le burn-out, ça.
Oui, il y a ce côté où il n'y a pas la flamme. Et justement, donc, ce côté aligné que tu dis, que ça vient faire une transition avec le troisième type d'épuisement professionnel, enfin lié en tout cas au travail, est-ce que tu peux nous le...
Ben oui, alors le burn-out, c'est ce que je te disais, hein, vraiment, pour faire une forme d'introduction avec le burn-out, c'est un intermédiaire, à mon sens, entre le burn-out et le bore-out. Parce qu'en fait, il va se caractériser par la perte de sens au travail. Là, la personne qui est atteint de burn-out, elle va se sentir complètement déconnectée de leur travail. Elles vont percevoir leurs efforts comme soit inutiles ou clairement sans signification, si tu veux. Donc, en fait, le burn-out, c'est vraiment quelque chose qui va être lié à une perte de sens, presque à ce qu'on appelle, tu sais, il y avait... alors, il me semble que c'est David... ah, je sais pas si c'est David Graeber, je crois, qui en parlait, qui s'appelle vraiment le bullshit job. C'est-à-dire ce qu'on dit, les jobs à la con, mais c'est des jobs, en fait, où il n'y a pas de sens. C'est absurde, ce qu'on nous demande de faire. Donc, très souvent, c'est une forme de souffrance par rapport à cette absurdité des demandes, soit de l'entreprise ou de la société. Et donc, contrairement au burn-out, qui est du coup un épuisement du salarié par l'ennui, contrairement au burn-out, qui lui, vide la personne de son énergie, du fait de l'amplitude de la tâche et de la pression subit, le burn-out, lui, en fait, il va laisser la personne tout à fait alerte et capable, mais totalement démotivée et désengagée, si tu veux. C'est
d'accord.
Ça, en fait.
Alors, ça me fait un peu penser, tu sais, j'ai une image dans ma tête qui me vient.
Pour conclure, Caroline.
Oui, pour conclure. C'est aux tables gigognes, tu sais, les tables gigognes qui se mettent en trois niveaux et qui viennent se rentrer en une, si tu veux.
Ouais.
Et ben, ça me fait un peu penser à ça, les trois types.
Ben oui, parce que tu vois vraiment autant on peut retrouver des choses hyper hyper connectées en fait, si tu veux. C'est pas, elles sont pas distinctes clairement. Enfin, si on peut les distinguer, mais tu vois quelqu'un qui va vraiment s'ennuyer dans son boulot et qui va se dire mais qu'est-ce que je fais là, est-ce que ça a du sens? C'est vachement aussi lié au burn-out, si tu veux. Bon, l'ennui, la seule chose, vraiment, c'est ce qu'il faut peut-être bien, pour conclure, comprendre, c'est que la personne, je répète, elle a pas ce mal-être. Enfin, ça va se découler en mal-être, ça va se découler certainement avec quelque chose de dépressif, hein, avec un état dépressif si on reste là-dedans. Mais on est complètement dans la démotivation. On est complètement dans une forme d'apathie, de désintérêt. Et en fait, c'est ces valeurs-là aussi qui sont perçues et ce manque de sens qui fait écho, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Khadija.
Merci, Khadija. Merci.
Je t'en prie. C'était, il y a tellement à dire, mais...
Très intéressant. Vous reviendrez. En plus, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus, finalement, dans une des trois, là. Enfin, dans un des trois, le bore, le burn, le brown. Et quand vous parliez surtout des gens en maison de... Voilà, qui ont un lien avec la santé, en EHPAD. Bon, oui. C'est vrai que c'est encore plus inquiétant, j'ai envie de dire. Quand on est, nous, reçus, après, par des gens qui sont dans des institutions de santé, et on se sent déjà pas forcément bien quand on y va, on se sent d'autant moins bien après, finalement. Bon, bah, merci beaucoup. Caroline, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, tout à fait.
Merci à vous.
Bon, eh bien, écoutez, cette émission, le temps pour moi de vous dire que vous la retrouvez à partir de 18h en podcast sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio. Restez avec nous.
Thérapie, Caroline Derumini sur Nutri Radio.